C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Bonjour à tous, c'est votre rendez-vous hebdomadaire de doses d'automobile à la radio.
Wow!
Comment ça va, M. Mekena?
Ça va bien, toi, Benoît?
J'ai travaillé ça cette semaine, c'est pas pire.
Ça sonne comme un slogan, là. Faudrait peut-être le faire.
Faudrait que je l'écrive que comme, m'en rappeler la semaine prochaine. Cette semaine, tiens, l'embargo est levé. J'étais en Europe la semaine dernière pour essayer le nouveau Macan EV. Nouveau modèle électrique, évidemment, du côté de chez Porsche.
Modèle abordable.
Quoi? Aborki?
Dans l'électrique?
Non, quand on prononce le mot Porsche et abordable dans la même phrase, ça marche pas tellement. À moins que tu achètes une Porsche endommagée, détruite, accidentée. Parce que si tu achètes une vieille Porsche à prix de la valeur, c'est pas bon. Ouais. Si tu achètes une nouvelle, ils sont hors de prix. Non. C'est une machine assez exceptionnelle, mais c'est pas pour ceux qui ont des petits budgets. Mm-hmm. On va le dire comme ça. Toi, t'as essayé quoi cette semaine, mon cher Alain?
J'ai essayé un véhicule qui s'appelle le Dodge Hornet VHR pour véhicule hybride rechargeable. Ils l'ont traduit le PHEV, eux autres.
Ah oui, en VHR.
Fait partie du nom officiel. C'est la nouveauté dans 2024 chez Dodge pour le Hornet, parce qu'il a été présenté officiellement en 2023.
Exact.
Et l'hybride rechargeable. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'essentiellement, c'est un Alfa Romeo tonalé réduit, à sa plus simple expression.
Oui, les gens d'Alfa détestent qu'on le définisse comme ça, mais il est fait à la même usine, c'est le même véhicule, ils ont la même batterie.
Et je dirais ceci, moi, ça a un petit peu redéfini ma perception que j'avais de la marque Dodge, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent avec un véhicule comme celui-là. Qui a beaucoup de qualité. Il y a aussi, évidemment, ses défauts. On en reparlera tantôt, mais c'est étonnant comme véhicule, je veux dire ça.
En entrevue aujourd'hui, on va avoir M. Bassem El-Raimi, qui est directeur du marketing chez Turo Canada. Mm-hmm. En fait, Turo a publié l'édition 2024 de son indice sur la possession d'une automobile au Canada et on trouve des chiffres et des données intéressantes. C'est pour ça qu'on va avoir M. El-Raimi avec nous aujourd'hui. Ça, c'est dans le deuxième bloc. Mm-hmm. Évidemment, on commence par nos petites nouvelles de la semaine. Je vous cède le micro, M. Mekena.
Ben écoute, c'est à mon tour de lever, je peux pas le dire comme ça, j'allais dire de lever un embargo, mais c'est à mon tour de parler de quelque chose dont l'embargo sur lequel a été levé. Là, je vous excuse, excusez ma syntaxe imparfaite, mais en gros, c'est parce qu'il y avait, c'est ça, il y avait un embargo à propos du Mercedes-Benz G580, qui est la version électrifiée du Classe G.
Ah, et puis ça fait un bout de temps que tu as été faire ça.
C'est en janvier.
Imagine, puis on est en mai.
Quand j'ai vu le document qui dit « t'en parles pas avant dans 3 mois », je me dis « ben là ». Mais bon, l'embargo est finalement levé.
D'accord.
Sur exclusivement les versions électriques, parce qu'on a parlé du Classe G il y a quelques semaines déjà, il y a à peu près un mois.
Oui.
Je ne sais pas si c'est un VUS ou un 4x4, je ne sais pas comment le confiner ce véhicule-là, mais on le sait, on le reconnaît, en tout cas, qu'on le croise sur la route, c'est à toutes les allures d'un Jeep allemand, là.
En fait, c'était l'équivalent d'un Hummer allemand à l'époque, le Geländewagen. Mm-hmm. Vous excusez ma prononciation allemande qui est probablement pas parfaite, mais c'est un modèle qui est arrivé en 1979.
Exact.
Et c'était des véhicules militaires. Écoute, il fallait voir le dessous de ce véhicule-là. C'était des rails de train qui tenaient ça en place. Là, c'était gros, solide. Puis c'est drôle parce que même Mercedes n'a probablement jamais pensé que 45 ans plus tard, on parlera encore de ce véhicule-là.
C'est un véhicule iconique dans la gamme. écoute, il garde encore beaucoup d'éléments du modèle de 1979. C'est plus ou moins la cinquième génération, là, selon où vous vous tenez, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'il y a eu une refonte légère dans la dernière génération, donc on serait à la quatrième génération et demie, mais là, j'ai pas coupé les cheveux en quatre. De toute façon, les 8 personnes qui vont l'acheter, ça balance peut-être un peu.
Oui, probablement. Oui.
Mais bon, bref, ça va être le G580 qui va s'appeler chez nous, ce véhicule-là. Et évidemment, vous l'aurez deviné, c'est une vraie bête. Gros, puissant, lourd, coûte très cher aussi. C'est tout un défi technique là, pour Mercedes-Benz d'avoir voulu électrifier le Geländewagen. Tu vois, moi aussi, j'essaye moi allemand de temps en temps. Et l'idée, c'était de pas changer la formule comparée au véhicule à essence, malgré le fait qu'il y a une structure à échelle. Donc, c'est quand même un truck. Pour ça qu'on a la misère à le catégoriser un peu. On a aussi scellé 3 fois plutôt qu'une les batteries, puisque ce camion-là a été conçu pour traverser les rivières, en plus de traverser, de monter sur les volcans en éruption.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui garde la vocation qu'il avait en modèle à essence.
Exact.
Donc, évidemment, comme on veut, on peut littéralement aller partout avec ce véhicule-là.
Ouais.
Ben, on attend la même chose du modèle électrique.
Exactement. Il y a eu beaucoup de compromis au niveau du design intérieur. Ça paraît pas visuellement, mais on a évidemment placé beaucoup des composants, par exemple, sous le capot à l'avant. Donc, il n'y a pas de coffre frontal. frontale, le fameux frunk dont plusieurs véhicules électriques se targuent de posséder. Mais beaucoup de mécanique, donc oui, et même d'ailleurs sous le capot à l'avant, il y a un haut-parleur pour reproduire le son d'un V8, parce que tu sais, pourquoi pas?
Ben, hein? Pourquoi why not? Pas?
Exactement. côté puissance, bon, on a l'équivalent de même plus qu'un V8, 579 chevaux et un couple de 859 livres-pieds. C'est beaucoup. À mon avis, c'est ben trop. Un chrono 0-100 de digne d'une voiture de course, là, malgré un poids qui fait un peu plus de 3000 kilos.
Hey, 3 tonnes.
Ouais.
Ça commence à être quelque chose, 3 tonnes.
Ça fait, oui. Ça prend des gros pneus pour soutenir tout ça. Il y a une autonomie quand même de supérieure, selon le modèle, à 440 km par charge. Détail en passant, le G580 n'a aucune capacité de remorquage officielle à sa fiche technique. Donc, c'est pas fait pour remorquer, c'est ce qu'on dit. Donc, si vous voulez remorquer, bien évidemment, vous pouvez le faire, mais ça vaut risque et péril. Il n'y a pas d'indication à ce niveau-là. Notez que chaque roue a droit à une transmission à deux vitesses. Ça, c'est une grosse affaire. Pour moduler la puissance en situation en route, comme on le ferait avec une basse vitesse, un low gear sur de vrai 4x4, un 4x4 à essence en tout cas. À ça, Mercedes ajoute un mode de virage très, très serré et électronique qui s'appelle le G-Turn, qui permet à la classe G de tourner sur elle-même de 360 degrés sans vraiment... C'est pas un donut, là, c'est littéralement on tourne sur soi-même, ce qui permet de sortir d'une situation
embêtante. C'est comme une fonction, c'est comme le...
C'est un bouton, tout ça tout seul.
C'est comme le crab walk avec le hammer.
Exactement. Évidemment, j'ai pas mal hâte de voir ce véhicule-là en personne, mais comme prendre le volant, parce que là, on l'a juste vu de point de vue technique, de point de vue esthétique de l'extérieur. On l'a vu en dedans aussi, mais il ne bougeait pas. Oui, c'est ça. Oui. Le G580 signale le changement de stratégie pour Mercedes-Benz, qui va abandonner progressivement l'appellation EQ, lancée il y a quoi, je veux dire 10 ans, je ne sais pas, ça fait quand même un petit bout de temps, là, pour regrouper les véhicules électriques. Lorsqu'on dit maintenant, c'est que c'est le G580 animé par la technologie EQ. Donc, on
ah oui, donc ce ne sera pas le EQG.
Exactement.
Par
il
n'y
aura pas de EQG qui était le nom fait. Du véhicule précédent, de ce format-là électrique, tout ça. Évidemment, ça ne fait pas une grande différence dans l'absolu, mais ça va aider à mieux lire le catalogue de véhicules de la marque allemande, parce qu'on sait que les Allemands aiment ça rendre ça compliqué quand ils ont 36 différents modèles.
Je pense qu'on revise un petit peu sa théorie chez Mercedes, parce que les modèles EQ, ça n'a pas marché.
Ben, il y a ça aussi.
Soyons honnêtes. Exactement. Là, ça n'a pas été un grand succès.
Et c'est pas comme si on nous avait offert une gamme de véhicules qui était plus attrayant au niveau du prix ou de quoi que ce soit. C'est vraiment des équivalents électriques de modèles déjà existants, classe S, classe E, dans ce cas-ci, classe G. Donc,
exact.
Voilà, on rétropédale de ce côté-là, mais avec un véhicule qui, sérieusement, lui, est fait pour aller de l'avant. Hein? Moi aussi, je peux faire des
bêtises. Oui, c'est tout à fait. Autre nouvelle, là, on s'en va dans les pneus.
Ben, écoute, oui, petite entorse à l'habitude. Yokohama est à l'assaut de l'Amérique du Nord.
Ça va après une auto. Un pneu, t'es pas loin de la vérité.
Je trouve que oui. Écoute, ça bouge dans le monde du pneu, disons ça comme ça. Yokohama a inauguré, plutôt cette semaine, une nouvelle usine au Mexique, grâce à laquelle la marque japonaise va pouvoir produire des pneus destinés exclusivement au marché nord-américain. La production au Mexique évite, et c'est ça la clé de l'affaire, ça évite des taxes à l'importation. On le sait, il y a des règles qui sont plus strictes maintenant par rapport à ce qui est produit à l'extérieur de l'Amérique du Nord et qui est vendu chez nous. Donc, ça devrait rendre les pneus Yokohama plus abordables aussi. Pour la marque japonaise, ça va permettre de mieux répondre aux besoins du marché nord-américain. C'est ce qu'on dit. Par exemple, l'hiver dernier, la marque a mis en marché des nouveaux pneus conçus exprès pour les véhicules électriques, les VUS électriques qui sont très populaires chez nous. Ça peut sembler un petit peu anodin, mais le poids élevé, l'accélération, les freinages, tout ça sur un véhicule électrique, ça demande quand même des bons pneus. J'aurais tendance à dire des pneus même meilleurs que ce qu'on achèterait ou ce qu'on poserait sur des véhicules équivalents à essence. Et pourtant, les constructeurs, généralement, vont installer à l'usine des pneus à faible résistance qui améliorent l'autonomie, mais qui ne sont pas super point de vue tenue de route. J'ai vécu avec un Nissan Ariya avec des pneus qui étaient essentiellement... c'était des patins, ça glissait sur une... Dès qu'il y avait une moindre trace de pluie au sol, c'était quelque chose. Donc, remplacer les pneus installés à l'usine par quelque chose d'un peu plus performant risque d'attirer des conducteurs qui veulent tirer le maximum de leur voiture électrique. Parce que oui, on peut conduire une voiture électrique et avoir du fun. D'ailleurs, pour tester tout ça, puis c'est ça que j'ai hâte d'essayer, c'est que Yokohama a offert d'installer des pneus Avid Ascend GT sur ma Chevrolet Bolt que j'ai de première génération.
Oui.
Ça va me permettre de tester ça cet été, c'est ça l'idée. Les Avid Ascend GT sont conçus exprès pour des... Non, excuse-moi, ils ne sont pas conçus exprès pour des véhicules électriques, mais ils sont conçus exprès pour être plus silencieux et pour prendre une charge plus élevée. Ce ne sont pas des pneus sport vraiment. Mais c'est des pneus de tout usage, mais ils ont quand même une espèce de valeur ajoutée, je veux dire ça comme ça, qui, à mon avis, puis c'est ça que j'ai hâte d'essayer, devrait bien faire là, sur une voiture comme la Bolt. Des pneus silencieux, c'est intéressant quand on n'a pas de moteur à essence pour gronder sous le capot. Parce que je ne sais pas si tu as dû le remarquer, mais quand on essaie des voitures électriques, souvent on entend le bruit des pneus, surtout les modèles sport.
Ben, c'est parce que comme il n'y a pas de bruit de moteur,
ben voilà.
On entend les pneus. Alors, c'est pour ça qu'on travaille fort du côté des constructeurs pour amener des pneus pour véhicules électriques avec une plus faible résistance, moins de bruit, parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'on entend.
J'ai aussi hâte de voir, on promet du côté de Yokohama que les Ascend GT ont une semelle exprès pour évacuer l'eau. Donc, il est fait pour justement que la pluie n'est pas. Ne nuise pas à la conduite. Ça va être intéressant parce qu'effectivement, la Bolt aussi sur les pneus de base n'est pas exactement la plus agile des voitures.
Ben, en fait, c'est que souvent, au niveau des constructeurs, pour être capable d'afficher une autonomie maximale, on va rogner sur la qualité des pneus.
Voilà.
Qui vont être plus durs, qui vont offrir moins de résistance, une meilleure autonomie, mais pour la qualité
pour la conduite,
pour le confort et la conduite, exactement. On n'est pas nécessairement au bon endroit.
Bref,
effectivement.
Je vais essayer ça dans les prochains mois, je vous en parlerai, mais okay. Tout ça pour dire que les constructeurs de pneus, y compris Yokohama, clairement sont en train de réaliser qu'ils doivent un petit peu monter leur niveau de jeu pour satisfaire les gens qui ont des véhicules électriques. Puis comme tout le monde de ce temps-là veut s'acheter un véhicule électrique,
ouais.
Ben, c'est à peu près temps qu'ils réagissent, quoi.
C'est la mode. Oui. Ben, on va voir ça, on va se tenir au courant du dossier. De mon côté, une nouvelle qui est sortie cette semaine, qui est une enquête de Hunter Brook Media en collaboration avec Reuters. Je le précise tout de suite, là. Ce n'est pas mon enquête. Tu sais, des fois, on dit des nouvelles. Je rapporte un fait. Hein? C'est le métier de journaliste. Mais on dit que la situation est plutôt précaire chez VinFast. On a appris que il y aurait 70% des livraisons de VinFast l'année dernière qui étaient destinées à d'autres entreprises qui appartiennent au PDG de la marque, M. Pham Nhat Vuong, et que dans le fond, ben on dit qu'il y a eu 444% d'augmentation de ventes, mais dans les faits, il y a 70% de toutes les ventes qui auraient été à d'autres compagnies.
Oups.
On dit que l'usine qui est au Vietnam, qu'on a visité,
qui est par ailleurs très jolie,
qui est par ailleurs très jolie,
ben oui.
Fonctionne à 12% de sa capacité.
Bref, comme quand on l'a visité.
Ben oui, parce que c'était pratiquement vide quand on est allé, mais là, il y avait comme des faits que c'était pas encore commencé, là,
ben
ça
oui.
S'en venait, mais là, c'est commencé. On dit qu'on a une capacité annuelle qui dépasse les 300 000 unités. Je me rappelle, on nous avait dit, à terme, c'est une usine qui serait capable de produire 950 000 véhicules
oui,
par année.
Ambitieux comme truc, là.
Installée comme elle était quand on y est allé, c'était 300 000.
Ouais.
Donc, ça n'a pas bougé. Et de ces 300 000-là, on est à 12 %. On a même vérifié du côté de la Caroline du Nord, parce qu'on a annoncé du côté de VinFast qu'on va avoir une usine là. Il n'y a toujours pas une pelletée de terre qui a été donnée. On devait avoir des véhicules produits là à partir de la fin 2024. Bon, de toute évidence, ça se fera pas, là. T'as beau aller vite, mais construire une usine en 3 mois, là, je pense pas que les miracles sont de cette capacité-là. Donc, on dit que c'était une usine qui devait au départ coûter 4 milliards de dollars. Il y a eu le début des travaux qui ont été annoncés, mais il y a eu zéro progrès depuis ce temps-là. Donc, on regarde ça, mais pourtant, ça s'est relativement bien vendu chez nous. Mais je sais que la presse automobile américaine, entre autres, a été extrêmement dure avec ce modèle-là. On ne l'a pas aimé. On trouve que c'est sous-motorisé. On peut pas parler de ça en électrique, mais que ça manquait un peu d'entrain.
Ouais.
Que la qualité de fabrication était fragile. Moi, j'ai remarqué des problèmes électroniques quand on est allé.
Le système de multimédia était très capricieux.
Oui.
Il est encore sur bien des véhicules.
Moi, je me rappelle parce que, bon, on était en Californie, on nous avait mis une route à suivre. Mais pouf, j'ai perdu l'écran au milieu de la route.
Ouh.
Il est revenu, mais j'avais perdu la route. Alors, j'ai dû me retrouver avec mon téléphone. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Mais effectivement, donc, ça sera un dossier à suivre, mais ça va pas toujours très bien. Du côté de chez VinFast. Et là, je fais suite à un rappel parce que la semaine dernière, il y avait un rappel aux États-Unis pour des modèles Maverick et des modèles Bronco Sport. Bon, ben Transport Canada a fait l'équivalent cette semaine.
Ah.
55 000 modèles ont été rappelés. C'est des VUS Bronco Sport et des Maverick. Bronco Sport, c'est les modèles fabriqués de 21 à 24. Et les Mavericks, c'est des modèles 2022. En fait, c'est le module de commande du groupe motopropulseur et le module de commande de carrosserie qui ne peuvent pas détecter un changement au niveau de la charge de la batterie de 12 volts. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez mettre votre batterie à terre. Puis là, ben, l'auto part plus.
Bonne chance à partir.
C'est ça. Alors, ça, c'est un problème. En fait, votre batterie se vide. Bon, c'est pas dramatique dans la mesure où il n'y a pas de danger quand vous conduisez. C'est juste que vous pouvez vous ramasser avec un autre véhicule qui part pas. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est des choses qui devront être corrigées. Mais il va y avoir officiellement des rappels qui vont se faire. Il va y avoir Transport Canada déclaré, entre autres, que les risques d'accident, évidemment, augmentent. Mm-hmm. Puis les concessionnaires vont entrer en contact avec les propriétaires. Alors voilà. Nous, on va une première pause et on revient avec notre invité de la semaine de chez Turo.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, notre invité de la semaine et directeur du marketing, c'est Turo Canada. Il s'agit de Bassem El-Raimi. Monsieur El-Raimi, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Turo a publié l'édition 2024 de son indice sur la possession d'une automobile au Canada. Et il y a beaucoup de données intéressantes, surtout chez les conducteurs un peu plus jeunes, appelons-les comme ça. Mm-hmm. Parlez-nous un peu d'abord de cette étude-là, la prémisse, sur quoi vous vous basez, qui on appelle, comment on prend les informations pour cette étude-là.
Oui, absolument. Alors, juste pour commencer, pour te dire un petit peu plus à propos de Turo, moi, je travaille pour la compagnie Turo, comme tu as mentionné, et Turo est une plateforme d'autopartage entre particuliers réputés au Canada. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met en relation les propriétaires de voitures avec une communauté de voyageurs à la recherche du véhicule idéal pour leur prochaine aventure. Mm-hmm. Alors, comme tu peux imaginer, on est très, très intéressé à propos de tout ce qui est utilisation et des possessions de voitures au Canada. Et donc, chaque année, on fait une étude en partenariat avec Léger et on envoie un sondage aux Canadiens un petit peu partout au Canada et on veut vraiment savoir à propos de leur relation et comment ils pensent à propos de possession et l'utilisation de voitures.
Parfait.
Et donc, cette année... Vas-y, pardon.
Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute.
Non, et donc, cette année, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que les Québécois et Québécoises sont de moins en moins en mesure de posséder une voiture en raison d'inflation.
Oui, on avait pas mal deviné
tout,
ça depuis quelques mois.
Tout coûte plus cher.
Tout coûte plus cher.
Tout coûte cher. Moins en mesure d'acheter du fromage à l'épicerie, donc je peux imaginer.
Exact.
Oui, non, exactement. Tout devient le plus cher, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un grand nombre de Canadiens et de Québécois considèrent l'accès d'un véhicule comme quelque chose qui est essentiel. Alors, c'est vraiment intéressant de voir que de moins en moins, on est de moins en moins en mesure de posséder une voiture, mais en même temps, c'est vraiment une chose essentielle à notre vie de tous les jours.
Mm-hmm. OK. Là, vous dites, entre autres, dans l'étude, que 56 % des milléniaux de 25 à 34 ans sont moins susceptibles d'acheter ou de louer un véhicule cette année. C'est quand même une forte proportion, ça.
Non, c'est plus que la moitié. La moitié des jeunes milléniaux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a demandé au même segment, les jeunes milléniaux, qui ont une voiture. Et on voit que 17 % d'entre eux prévoient de ne plus posséder ou louer leur voiture à l'avenir. Alors, c'est pas juste qu'on est moins susceptible d'acheter ou de louer. Les gens qui ont déjà des voitures, ils pensent à ne plus avoir de voiture dans le futur prochain.
Donc, évidemment, quand on s'appelle une compagnie de partage de voitures, ça devient intéressant pour vous. Est-ce que c'est une étude comme celle-là vous amène, par exemple, à revoir vos stratégies, à regarder ce qui peut être fait pour remplir cette espèce de vide-là qu'il va y avoir?
Oui, alors on parlait vraiment de possession. Avant que je te dise qu'est-ce que tu vois, on pense de cette data-là, je voulais parler un petit peu plus de l'usage. Alors,
okay.
On a vu que 85 % des répondants canadiens possèdent ou louent une voiture. Cette stat-là est la même pour les Canadiens ou les Québécois, c'est à peu près 85-84%. Mm-hmm. Mais quand on a demandé aux Québécois qu'est-ce qu'ils font avec leur voiture, on a appris qu'ils utilisent rarement leur voiture. Alors 77% des répondants québécois qui ont une voiture pensent que c'est impossible de s'en passer. Puis plus que la moitié devrait changer de job s'il n'y avait pas une voiture. Alors, ça, c'est vraiment intéressant pour une compagnie comme Turo parce qu'on voit qu'on est une excellente solution de rechange au modèle de propriété traditionnelle. Donc, avec Turo, tu as la flexibilité d'accéder à une voiture exclusivement quand tu en as besoin, mais sans un engagement financier à long terme.
Ben, c'est sûr que c'est bon pour Turo, mais c'est aussi un indicateur de comment l'infrastructure de transport au Québec est peut-être un peu déficiente au sens plus large.
Un peu.
Parce que, et on en a parlé dans les derniers jours.
Vous êtes poli, Monsieur McKenna.
Il y a eu des dossiers dans les médias où on parlait justement de la question de la propriété de l'automobile, de la dépendance qu'on a au Québec par rapport à l'automobile. Et ce qu'on réalise, c'est que depuis 40 ans, ça s'est dégradé.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de recours à d'autres moyens de transport que la voiture
parce que la voiture est déficiente. Et malgré les efforts qui ont été faits, le taux d'adhésion au transport en commun ne monte pas.
Exact.
On est à peu près stagnant à des niveaux qui sont beaucoup trop bas pour que ces organismes-là soient rentables. Tous les organismes de transport en commun, puis j'ai pas fouillé jusqu'au dernier, sont tous en déficit. Du premier au dernier, et on est à crier famine auprès du gouvernement provincial pour dire il va falloir financer nos infrastructures. On n'arrive pas à financer ces infrastructures-là parce qu'il n'y a juste pas assez de monde qui y adhère.
Faut dire aussi qu'on considère que l'autobus est une dépense, alors que la route asphaltée est un investissement, alors qu'on pourrait penser les choses à l'envers. Parce que le Québec est un pays d'immigration plus que jamais, comme le Canada.
Exact.
Et le meilleur moyen d'entrer dans une économie, c'est de pouvoir se déplacer vers son travail, et l'accès au déplacement, au transport, coûte plus cher s'il faut s'acheter une voiture que si on peut juste prendre l'autobus. Donc, c'est vraiment une question... Il y a une stratégie là, de politique économique qui pourrait être débattue longtemps. Mais parlant d'utilisation, de sous-utilisation, je regardais dans l'étude de Turo et vous dites que 95 % du temps, les voitures ne sont pas utilisées par leurs propriétaires. Donc, clairement, il y a là aussi un moyen d'optimiser, j'imagine, ce qu'on fait de sa voiture en utilisant entre autres Turo. J'imagine, c'est ce que vous dites, M. Larémy.
Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on voit du côté des propriétaires ou des hôtes, comme on les appelle sur la plateforme, en partageant leur voiture, Turo aide les propriétaires à gagner à peu près 725 $ en moyenne de revenus supplémentaires par mois. Alors, nous, notre position, c'est qu'on pense pas que l'idée de possession de véhicules va complètement partir puis que tout le monde va faire de l'autopartage. Il va y avoir un segment de la population qui ont besoin d'une voiture. Je pense, des familles et ces segments-là de la population. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire dans un monde que le coût de possession continue d'augmenter et devient beaucoup trop cher pour beaucoup de familles entre nous? Du coup, c'est une option où ils peuvent gagner des revenus supplémentaires pour faire que la possession soit un petit peu plus confortable.
Là, j'avais une question qui est terre à terre parce que vous avez évidemment toutes sortes de véhicules en location du côté de chez Turo. Ça va de la petite voiture pour le week-end pour deux personnes aux véhicules familiaux, aux VUS. Comment est-ce qu'on fonctionne quand on loue? C'est-à-dire, moi, comme propriétaire du véhicule, est-ce que vous avez des chartres qui sont à respecter quand on a un véhicule à louer du côté de chez Turo? Est-ce qu'on consulte le propriétaire? Comment on fixe le prix?
Oui, alors nos propriétaires, ils sont toujours en contrôle. Ils ont un contrôle complet autour de quand ils veulent partager leur voiture, à quel prix. Bien sûr, ça peut être difficile pour quelqu'un de choisir un prix s'ils s'y connaissent pas. Alors, comme disons ma Honda CRV ou ma van, ça vaut combien par jour? Bien sûr, la plateforme de Turo peut donner un prix recommandé, mais on est très très fiers du contrôle qu'on donne à nos hôtes, les propriétaires de voitures. Ils peuvent complètement choisir le prix. Alors, soit que ce soit 50 $ par jour, 20 $ par jour, c'est vraiment à chaque propriétaire de mettre un prix qui est compétitif pour leur voiture et bien sûr dans leur marché, parce que comme tu peux imaginer, une voiture à Montréal, ça coûte complètement différent qu'une voiture à la ville de Québec ou même, disons, à Brossard ou à la Rive-Sud, quelque chose comme ça.
OK, intéressant. Vous avez également parlé, parce qu'on voit que vos principaux utilisateurs, ce sont surtout les milléniaux. C'est ceux qui sont le plus susceptibles de faire affaire avec un service comme le vôtre. Pourquoi?
Probablement parce que c'est le segment de la population qui est le plus confortable à utiliser des applications mobiles. Comme tu peux imaginer, notre service et notre produit est offert en ligne sur le web, et la plupart du monde utilise une app. Comme tu dis, la sélection inégalité, c'est une autre chose pourquoi le monde se tourne vers Turo. Alors, on voit que ce segment de la population-là, ils mettent beaucoup d'importance à leur sélection. Ils veulent choisir la voiture qui est parfaite pour l'occasion. Et ça change. C'est pas toujours une van. Des fois, c'est des vans pour les vacances en famille. Mais comme tu dis, ça peut être une petite seule voiture pour une fin de semaine, pour aller en voyage en fin de semaine, quelque chose comme ça. Alors, je pense que c'est vraiment la combinaison de la sélection inégalité. On a une app qui est facile à utiliser et bien sûr un nombre de fonctionnalités pratiques comme livraison ou rajouter des extras. Ça fait que Turo, c'est vraiment une option favorite des jeunes milléniaux.
OK, parfait. Et là, je vois toutes sortes d'applications pendant que ça cogite dans ma tête, mais je sais que vous avez une plateforme où on peut voir les véhicules qui sont disponibles par région. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui veut se magasiner un véhicule électrique. Est-ce que c'est une bonne façon de dire, ben moi, je vais passer par Turo pour me donner une idée de ce que c'est pour vivre avec le véhicule un certain temps pour voir si c'est pour moi ou pas?
Absolument. Le code réservé sur Turo pour comme la test drive, c'est vraiment l'essai routier, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est très très commun et partout dans le code des véhicules électriques. Mm-hmm. Notre sondage nous a montré que 81% des Canadiens n'ont jamais conduit un véhicule électrique. Alors c'est savoir pas juste si un véhicule électrique ça marche pour ta vie puis ton lifestyle, mais lequel de ces véhicules là. Au lieu d'aller à chaque concessionnaire, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux avoir plusieurs modèles qui sont livrés chez toi, puis à travers de quelques week-ends, tu peux tous les utiliser, puis voir est-ce que ça fait dans ton parking, est-ce que tu aimes bien l'utilisation, le range et tout ça. Alors, c'est vraiment une des raisons pourquoi beaucoup de Canadiens se tournent vers Turo, c'est vraiment pour l'essai routier étendu, comme qu'on l'appelle.
Parfait. Bon, on rappelle que Turo est partout au Canada. Mm-hmm. Vous avez des... En fait, sur le site, on va même vous diriger vers la ville où se trouve le véhicule. Et à ce moment-là, ben, c'est à vous de négocier, je pense, directement avec le propriétaire.
Oui, absolument. Alors, tous les prix sont listés. Alors, il n'y a pas de surprise en termes de négociation. Tu peux voir directement sur le site web c'est quoi le prix de la voiture, c'est quoi le total. Et une fois que tu as trouvé la voiture parfaite au prix que tu veux, tu envoies une demande au hôte et c'est habituellement accepté dans quelques secondes et tu sais si tu as la voiture ou pas.
Bon, ben parfait. Ouais. Ben écoutez, M. Raimi, merci de votre temps. C'est un service qui peut être le fun si on a un week-end, quelques jours à consacrer et qu'on veut pas nécessairement, soit qu'on n'a pas de véhicule ou qu'on a l'usage d'un véhicule. Donc, rappelez-vous de Turo Canada. C'est une façon de prendre le véhicule de quelqu'un d'autre et d'avoir du plaisir. Alors,
ou de se déplacer. Ben
ou de se déplacer. Merci beaucoup de votre temps, M. Raimi.
Merci beaucoup de m'avoir sur le show.
Alors merci, c'était Monsieur Bassem El Raimi qui est directeur du marketing chez Turo Canada. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le dernier bloc de l'émission. D'abord, comment nous écouter? On le fait à chaque semaine, on veut pas trop se répéter. On va faire ça vite. Il faut aller sur le site du 98.5 FM, section balado. « Ça tient la route », on est là. Votre plateforme préférée de balado, on est là aussi.
Oui.
Annuelauto.ca, on est là aussi. Et si vous voulez nous écouter à la radio, parce qu'on est aussi une émission de radio, tous les dimanches à 18h, on est à Montréal au 98.5. Et consultez votre site Cogeco local, on est aussi en province à différentes heures. Rapidement, pour notre chronique écolo-auto de la semaine, on revient sur les modèles qui ont été les plus populaires et aussi les plus intéressants. Du côté du Salon du véhicule électrique de Montréal, on le sait, c'était la semaine dernière, ça s'est terminé dimanche.
Oui.
70 véhicules qu'il y avait en présentation. On en a parlé d'ailleurs avec Luc Sommeur à l'émission la semaine avant. Et on revient du côté de chez Colauto sur les modèles qui ont, fait fureur d'une part, mais je pense qu'ils ont fait le plus jaser les gens qui sont allés faire un petit tour. Donc,
Est-ce qu'il y a des vélos Trek dans leur liste?
Il n'y a pas de vélo. On a parlé d'auto.
Il y a des beaux vélos électriques là-bas cette année.
Ben, je te donne une idée. Aussi. Chevrolet Equinox, Dodge Charger EV, Fiat 500 Red, Fisker Ocean, malgré le fait que...
L'auto était là.
L'auto était là.
On peut arrêter.
La compagnie était plus là, mais l'auto était là. Puis la Polestar 3, là, ça, c'est les modèles qui ont semblé marqués. Mm-hmm. Il y aura un article là-dessus, on mettra ça sur annuelauto.ca.
Il y avait un Kia EV9 plaqué or, me semble.
Oui,
aussi,
qui était le winner, c'est parce que c'est le World Car of the Year.
Ah, voilà.
Et on l'a râpé, passe-moi le terme, mais on l'a enveloppé couleur or. Je voudrais pas avoir ça dans la rue. Moi, ça, tu le vois à 6 000.
Ça
graffine solide. Mais il l'avait pour souligner le fait que c'était le gagnant du World Car of the Year. Alors, cela dit, Dodge Hornet, véhicule hybride rechargeable.
Sans transition.
Sans transition. Swing-moi ça là.
Il y a un fond de train dans le Hornet. Je n'ai pas souvenir du Hornet original. Je ne sais pas si ça te rappelle le...
Non, je suis vieux, mais pas si vieux. Alors, en fait, oui, je m'en souviens, mais j'avais les Hornets, c'est début des années, en fait, 60, début 70, j'avais pas l'âge d'avoir un permis de conduire, mais je me souviens de quoi ça avait l'air, par exemple.
Et là, on a ressuscité le nom l'année passée, en 2023, et là, ça y est, il y a enfin une version, en fait, je devrais dire, Dodge a enfin son premier véhicule électrique à travers le Hornet VHR, une version hybride rechargeable. Je ne sais pas si vous avez entendu les majuscules dans ce que je viens de dire, qui explique le VHR juste avant. Du Hornet, donc, qui est un... Écoute, c'est à mi-chemin entre une familiale compacte et un VUS. Là, c'est pas... C'est, on, vous le voulez, vous le dites comme vous voulez. C'est la grande nouveauté cette année, en 2024, pour ce modèle-là, qui vient en prime avec un badge ART, qui est généralement réservé aux versions les plus dynamiques, ou en tout cas, et raisonnables en même temps, là, parce que c'est pas, y en a des vraiment démesurés chez Dodge, là. Mais là, on a donc un Hornet ART hybride branchable. Dodge appelle ça un véhicule électrifié, pour jouer un peu sur les mots, pour attirer ceux qui pensaient que le gros Chrysler avait un peu abandonné sa marque la plus bas de gamme. Parce que jusqu'à tout récemment, il faut le dire, hein, on donnait pas, en tout cas, personnellement, je donnais pas très cher de la marque Dodge, là. Je ne sais pas si tu te rappelles, Benoît, mais dans les tribulations là, qui ont mené, et j'ai utilisé le mot tribulation, je ne désire pas ça, qui ont mené au rachat du groupe Fiat Chrysler par Peugeot Citroën, ce qui nous a donné Stellantis.
Exact.
Il y avait beaucoup de rumeurs qu'on garderait seulement les marques Jeep et Ram. Éventuellement, on a dit, ben, on va garder Chrysler aussi. Et finalement, on a gardé toute la patente, incluant
Dodge. Oui,
ben,
en fait, M. Tavares avait eu dans une grande conférence où tout le monde était là, c'est-à-dire tous les...
Les gros bons.
Tous les présidents des différentes divisions. Et il a assuré que tout le monde allait être vivant pour les 10 prochaines années.
Voilà.
Et que, par la même occasion, le message, c'était, vous avez 10 ans pour me faire la preuve que vous pouvez être rentable.
Prouvez-moi que ça va marcher.
Alors là, ben, le décompte est commencé et les compagnies doivent effectivement être rentables. Mm-hmm. Et là, bon, évidemment, on part de loin chez certaines compagnies. Tu sais, Fiat, on le sait, là, Fiat en arrache violemment. Alfa Romeo... on mise sur Alfa Romeo, mais c'est une marque qui a eu des hauts et des bas, qui
pas
a,
son
eu,
top en ce moment,
qui a eu plus de propriétaires que de modèles dans leur existence. Là, ça a été difficile.
Ouais.
On dit qu'on va les financer parce que le problème est souvent là. C'est pas que les gens n'ont pas des bonnes idées, c'est qu'ils n'ont pas une scène pour réaliser les idées qu'ils ont.
Mm-hmm.
Prends la garde Volvo, qui est le plus bel exemple, qui avait été vendu par Ford. Ford avait négligé ça au dernier degré. Les dernières années, les Volvo étaient des l'ombre de ce que ça avait déjà été. Et là, Geely a repris ça en disant aux ingénieurs suédois, regardez.
Voici du capital.
Voici des chèques.
Ouais.
Bon, à cette heure, faites-moi des voitures. Et Volvo va bien. C'est pas parce que les gens qui étaient là, t'es incompétent. C'est parce que quand t'as pas une scène pour faire avancer ton produit...
Quand tu fais des erreurs, pour un moment que tu payes pour...
Exactement.
Et là, finalement, paf, Dodge a un Hornet branchable. Elle va aussi avoir un Charger BEV. Hein. Le nom officiel, ça va être ça, Charger BEV, pour Battery Electric Vehicle.
Qui était au Salon du véhicule électrique de Montréal.
Effectivement, mais qui va arriver le plus tard cette année, qui est présenté comme le premier muscle car électrique de l'histoire de l'automobile.
Il est beau, ça, en tout cas. Ben, à défaut du reste, il est spectaculaire.
Je veux dire ceci... L'espèce de clin d'œil rétro et futuriste que permet l'électrique, on peut l'exploiter. Les gens de Dodge semblent l'avoir fait.
Il y a une juste dose. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de futuriste sans que ça ait l'air extraterrestre.
Oui.
Puis il y a juste assez de rétro que tu dises, ah ben oui, je reconnais le Charger là-dedans. Donc, visuellement, le véhicule est vraiment réussi. Là, évidemment, il faudra l'essayer puis voir ce que ça donne sur la route.
Ouais.
Mais on est parti du bon pied, je trouve.
Oui, effectivement, parce que si on suit au Hornet VHRRT, ça commence à faire long comme nom, mais je pense que Dodge a trouvé un filon assez intéressant. Le Hornet est animé par, écoute, c'est rien de très gros, c'est un moteur turbo de 1,3 litres qui fait, je sais plus quelle puissance exactement, mais qui est jumelé à un moteur électrique qui, lui, fait 90 kW. Là, je me rappelle plus ça fait combien, je pense ça fait 120 chevaux, mais au total, on a 285 chevaux et un couple de 383 livres-pieds, ce qui est quand même pas mal pour un véhicule de cette
dimension-là. L'électrique nous donne toujours beaucoup de
le couple
de
est couple. Instantané, exactement, est très élevé. On a en conduite purement électrique jusqu'à 50 km d'autonomie par charge. Et ça, si on joue encore un peu sur les mots, parce que dans le tableau de bord, la partie, on voit les deux jauges, électrique et essence, et celle à essence est correcte, mais celle électrique, on indique 50 km quand elle est pleine, mais jamais plus.
Non.
Et jamais moins non plus. Donc, ça part à 50, puis des fois, on peut faire 10 km avant que la jauge descende à 47.
Ouais.
Et des fois, on en fait un, puis ça descend à 43. Donc, j'ai pas trop compris encore. Mais on dit, en principe, à peu près 50 km d'autonomie électrique.
En fait, c'est la même pile qu'on a dans le Pacifica, qu'on a dans le Jeep, qu'on a parce qu'on a une pile pour le moment chez Chrysler, chez Stellantis.
Mm-hmm.
Ça va changer cette année avec tout ce qui va arriver. Mais on hérite de la même pile qu'on a déjà partout chez les autres constructeurs de la marque.
Et je trouve que dans le cas du Hornet, c'est une belle application. Ça fonctionne assez bien. Évidemment, on n'a pas la puissance pleine en électrique parce que le moteur, je l'ai noté, il fait 120 chevaux. Je disais 90 kW tantôt, c'est 120 chevaux. Quand on utilise les deux moteurs essence et électrique, le véhicule a un petit problème. Par contre, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser. J'arrive pas à trouver si c'était la faute de la boîte de transmission qui a cassé ce rapport, qui est par ailleurs tout à fait correct. Mais elle a de la misère à tomber sur le bon rapport quand le moteur essence démarre et que le moteur électrique laisse la place, ou je sais pas trop comment c'est modulé, mais ça donne une espèce de flou dans la conduite. Généralement, au moment où on a besoin que ça accélère, ça cale. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est pas idéal. Donc, pour dépasser sur l'autoroute, il faut y penser d'avance.
Il y a un drôle de rapport. Je l'ai eu, moi aussi, en essai. Puis, à un moment donné, il fait comme...
Ben, exactement.
Là, tu dis, bon, attends, là, on va-tu par en haut ou par en bas? Ou on dirait que je sais pas s'il va accélérer, se rattraper, récupérer de l'énergie pour la batterie... Effectivement.
Exactement. Donc, le Hornet VHR, longue histoire courte, c'est pas exactement un véhicule sportif. Ce qu'on dit, et tu vois, je vais faire un clin d'œil ici à Alfa Romeo, c'est ce qu'on dit pour les gens qui veulent exactement ce véhicule-là, mais avec un peu plus de dynamisme. Il faut aller voir du côté du Tonale, justement, qui est l'équivalent chez Alfa Romeo. On va en reparler de celui-là bientôt aussi. Je veux dire ceci, le Hornet, sa suspension est vraiment mal calibrée pour prendre en charge tout le poids additionnel amené par l'électrique. Ou en tout cas la combinaison des deux mécaniques. Le véhicule est lourd, il freine des fois très paresseusement. Il a tendance à prendre les virages comme, j'allais dire, un Dodge d'il y a 25 ans, même je pense dire 30 ans et plus. Ça tangue beaucoup, ça s'ouvre en masse, c'est pas idéal. C'est dommage parce que sinon, pour une conduite au quotidien, c'est un véhicule hybride branchable que moi j'ai trouvé très plaisant. Le 50 km par charge, c'est pas beaucoup, mais ça se recharge assez vite. Et durant mon essai, j'ai réussi à maintenir une consommation moyenne de 1,6 litres au 100 km en le branchant évidemment le plus souvent possible.
Oui, donc, évidemment, et tu fais bien de le souligner parce que les gens ont tendance à ne pas brancher les véhicules hybrides branchables en se disant, ah, ben, il y a un moteur. Oui, mais c'est parce que si vous voulez une bonne consommation, vous devez exploiter le côté électrique, là. Ben oui, c'est clair.
Sans le brancher, il y a une journée où je fais beaucoup de route, sans le brancher, ma consommation moyenne était de 8,5 litres au 100. Donc, c'est vraiment pas du tout la même chose. Un hybride tout court sur le Hornet ne ferait pas du beau travail, mais en le branchant, ça marche plutôt bien. Je vais dire ceci parce qu'on parle d'un Dodge Hornet depuis tantôt. On n'a pas l'impression, quand on embarque de ce véhicule-là, d'être à bord d'un Dodge. De l'extérieur aussi, il faut dire que de l'extérieur, moi, j'avais la version toute noire avec un logo, avec les deux bandes diagonales rouges du RT, plutôt que le logo Dodge classique. Et les gens que j'ai vus sur la route qui le regardaient, c'était pas nécessairement des gens qui achèteraient normalement un véhicule Dodge. Donc, je pense que de ce côté-là, on a réussi un certain coup, un bon coup, du côté de chez Dodge. Mais clairement, on partage des morceaux avec Alfa Romeo et je pense que c'est tout à l'honneur de ce véhicule-là. Il y a évidemment beaucoup de commandes, beaucoup de boutons partout. Là. Ça va peut-être agacer des gens, mais le final, c'est que l'ergonomie est vraiment très bonne. À part, à mon avis, deux petits détails.
Oui, dont un qui est l'éléphant dans la pièce. Là.
Je vais commencer par celui qui m'a fait rigoler. Les essuie-glaces, contrôler les essuie-glaces, c'est super compliqué pour rien. contrôler les essuie-glaces à l'arrière, évidemment, une fois que tu le sais, mais quand tu le sais pas...
Ça m'a pris 5 minutes avant de le trouver.
C'est un petit casse-tête inutilement complexe. Et l'autre truc, et tu me diras après c'est quoi, mais moi, j'ai pas des gros pieds, là, mais j'arrivais pas à glisser mon pied entre le frein et le fond du puits pour les pieds pour appuyer sur l'accélérateur sans accrocher l'autre pédale.
Non, moi, l'éléphant dans la pièce, c'est le prix.
Ben là, ça, c'est pas de l'ergonomie, effectivement. Et enfin, on arrive à ça parce que pour un véhicule Dodge, qui se veut la marque la plus bon marché sur le marché, disons ça comme ça, il coûte 49 000 $ après rabais, le véhicule Hornet en version rechargeable, ce qui est un peu cher, on va dire comme ça.
Hein, c'est pas mal cher.
Pour ce modèle-là.
Oui. Parce que c'est un modèle compact, on s'entend.
Ben,
là.
Pour quatre personnes.
Quatre personnes.
On n'exagère pas sur les bagages.
La cinquième, elle va être mal à l'aise.
Si on l'avait mis moins cher, ça aurait été un sacré bon coup. Mais effectivement, à cause du prix, ça devient un véhicule qui est comme...
Ça aurait été arrêté.
Et il y a un passif avec la marque
Ça aurait été intéressant en bas de 40.
Probablement que si on l'avait badgé Chrysler, le prix passerait mieux. Parce qu'on a essayé de positionner Chrysler comme un peu plus haut de gamme.
Oui, puis au-dessus, tu as l'Alfa Romeo qui est l'équivalent, qui est encore plus cher, même véhicule. Bon.
Ça, c'est une autre.
Il y a un peu d'équipement, là.
On reparlera du Tonale et on verra comment. C'est peut-être pas la meilleure idée non plus.
Ça sera un autre débat, effectivement. Les gens d'Alfa sont pas trop heureux, effectivement. Mais ça, on pourra en reparler à une autre émission.
Ouais.
Écoute, de mon côté, j'étais en Europe. J'ai passé la deuxième partie du voyage. J'étais avec les gens de Shell où j'ai eu l'occasion de rouler en Ferrari.
Ben oui.
Sur le circuit de Fiorano. Mais ça.
Dure semaine.
On va en reparler après le 6 mai. J'ai un embargo. Ah, okay. Mais auparavant, j'étais à Cap d'Antibes, près de Nice, en France, pour le lancement de la Porsche Macan EV. Donc, c'est le premier Macan électrifié sur le marché, ce modèle-là. Imagine, on a vendu 844 000 exemplaires en 10 ans.
C'est un sacré coup de circuit, le Macan.
Parce qu'on s'entend, au prix qu'ils vendent ça, un Macan, 844 000, là, c'est beaucoup de monde. Moi, j'ai même été surpris quand Porsche nous a annoncé ça. Mm-hmm. Donc, on ne veut pas mettre en péril la popularité du modèle à essence. Donc, il va y avoir un modèle électrique, mais qui va côtoyer le modèle à essence. On va continuer de produire Moi, j'appelle ça la version actuelle en modèle à essence. Mais pour démarquer les deux modèles, on a remodelé le modèle électrique. Bon, pour différentes raisons, mais la raison la plus évidente, c'est l'aérodynamisme. Parce qu'on le sait, un modèle qui fend l'air va avoir une meilleure autonomie. On a retravaillé le modèle en soufflerie. On l'a allongé, élargi, abaissé. On a un fond plat sur le véhicule. On a fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Et on a réussi à réduire le CX à 0,25, ce qui est assez bas, merci.
Pas mauvais, ben oui.
Alors qu'on est à 0,35 pour le modèle à essence. Donc, on a beaucoup travaillé ça. Le modèle est un petit peu plus long. En fait, on a 86 mm de plus long que le modèle à essence.
Oh, c'est beaucoup.
L'empattement fait presque 3 mètres. On a dégagé de l'espace, surtout aux places arrière. Là, on l'a vu parce qu'on l'a essayé. Il va y avoir deux modèles Macan électriques, le Macan 4. Et oui, on garde le nom turbo.
Pourquoi pas?
Ça n'a aucun sens pour un modèle électrique.
Ben, ça devient pittoresque, là.
Ben, ça devient un peu pittoresque parce que là, on avait ça pour le Taycan, on a ça pour le Macan. C'est deux modèles électriques. Mais c'est un modèle, le Macan 4, qui est le modèle de base, produit jusqu'à 402 chevaux de puissance en suralimentation parce qu'on a une suralimentation qu'on peut utiliser pour des dépassements, par exemple.
Un boost.
Un boost. Mm-hmm. Le Macan Turbo, lui, fait 630 chevaux. Donc, un moteur beaucoup plus, moteur électrique beaucoup plus puissant. Mm-hmm. On a 479 livres pieds de coupe dans le Macan 4 et 833. Imaginez, vous faites un 0-100 en 5.2 avec le Macan 4 et en 3.3 avec le turbo. Donc, c'est vraiment toute une machine. Il y a 100 kWh de pile. Il y en a 95 qui sont utilisables. Là, les chiffres qu'on nous a donnés au niveau de l'autonomie sont des chiffres WLTP, donc il faut faire attention. On est... j'avais mis ça quelque part.
Ils sont très optimistes pour nous, Nord-Américains.
C'est comme un peu plus de 600 pour le modèle Macan 4 et autour de 500. Attendez-vous là à avoir probablement autour de 500 km de façon réaliste avec ces modèles-là ici.
Mm-hmm.
C'est un modèle, écoute, qui est vraiment... je vous parlais il y a quelques semaines de la Taycan qui tient la route comme rien que j'ai vu à ce jour.
Mm-hmm.
On utilise beaucoup les mêmes stratégies avec le Macan. C'est-à-dire qu'on a une grande fermeté. La conduite est à géométrie variable. C'est-à-dire que si vous allez à basse vitesse, comme on le fait à Cap-d'Antibes, à Nice, parce que, bon, on est en ville, on s'est déplacé vers les routes de Napoléon, la Turbie, en haut de Monaco, Monte-Carlo, là où on a des routes où on peut mettre un peu la gomme, des routes de montagne. Donc, on l'a essayé dans des parcours plus serrés. Il y a une suspension pneumatique qui donne vraiment un confort de roulement qui est assez étonnant parce qu'on a 2480 kilos. Là, on a quand même un
toujours
véhicule
pesant.
Qui est lourd. Mm-hmm. Si vous voulez à régime tranquille, c'est parfait. Il y a une bonne fermeté, mais c'est un confort qui est quand même présent. Par contre, quand vous augmentez le régime, évidemment, pour tenir autant de poids sur la route, il faut travailler énormément tous les systèmes électroniques, toute la technologie qui est à bord. Il faut rigidifier au maximum tout ça. Et en fait, c'est quasiment contre nature d'avoir un VUS qui est quand même de bonne taille, se conduire quasiment, ou en fait, je dis quasiment, pas quasiment, comme une voiture sport. Ça reste collé au bitume. Mais c'est au prix d'une grande rigidité. Puis nous autres, il y a eu quelques journalistes qui ont eu mal au cœur. Faut que je vous parle aussi du prix. Parce
oui,
que,
ça,
oh,
c'est le
prix!
C'est toujours
oh,
ça le problème.
Le prix.
Ben
99 300, ça, c'est avec rien dedans. Le modèle qu'on avait de base était à 134 000.
Ouf.
Puis le modèle turbo qui est à 134 000 avec les options qu'on avait à 167 000. Alors, ça s'adresse à peu de gens. Mais si vous avez les sous, honnêtement, vous allez être mort de rire. C'est un véhicule électrique d'exception.
Mm-hmm.
Bon, ben voilà, ça termine déjà ce qu'on avait à dire. Merci à Jean-Christophe Ouellette, monsieur
El Raimi.
Alain, merci.
Merci, Benoît.
Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Salut.
C'est 23.